à Washington.
Bonsoir, le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition des 17h30 temps universel du lundi 23 septembre 2019. John Lyndon pour vous présenter cette édition. Tout d'abord, les titres. L'urgence climatique est au menu d'un sommet à New York. Hassan Rouhani, le président iranien, vient à l'Assemblée générale de l'ONU sur fond de tension avec les États-Unis. En Algérie, ouverture d'un procès symbolique, le frère du président déchu a été devant la justice militaire à Blida. L'OMS accuse la Tanzanie d'avoir caché des informations sur des cas suspects d'Ebola. Et en République démocratique du Congo, un deuxième vaccin expérimental anti-Ebola sera administré à partir de mi-octobre prochain.
L'équipe qui a été installée, dirigée par le professeur Mouyembe, je crois que c'est aussi une équipe qui a confiance en elle-même. Elle ne peut pas accepter que l'on utilise un vaccin qui n'a pas prouvé ses efficacités sur la population congolaise.
Et puis, ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Un sommet sur le climat se tient à New York. Une soixantaine de dirigeants sont réunis pour discuter de l'urgence climatique. Donald Trump, qui a retiré les États-Unis de l'accord de Paris, y a fait un passage éclair. 66 pays adhèrent à l'objectif d'une neutralité carbone d'ici 2050. Nathalie Barge.
L'urgence climatique est une course que nous sommes en train de perdre, mais nous pouvons la gagner, a dit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a notamment invité à la tribune la jeune Suédoise Greta Thunberg. Symbole de la jeunesse mondiale pour la défense de l'environnement, l'adolescente a prononcé un discours dénonçant l'inaction des gouvernements. 66 États ont souscrit à l'objectif d'une neutralité carbone d'ici 2050. Jusqu'à présent, une vingtaine de pays se sont engagés à réduire au maximum leurs émissions de gaz à effet de serre et à replanter des arbres pour compenser. La réunion sur l'Amazonie, en l'absence du Brésil, a permis de débloquer 500 millions de dollars supplémentaires pour les forêts tropicales. Par ailleurs, la Russie a signé une résolution consacrant son adhésion définitive à l'accord de Paris sur le climat, signé par 195 pays. Le président américain Donald Trump s'est retiré de cet accord, mais a fait une brève apparition à ce sommet. Il doit s'adresser demain à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Le pape François a déploré ce lundi les très vagues engagements pris par les États depuis l'accord de Paris de 2015 dans un message vidéo envoyé aux participants du sommet climat de l'ONU à New York. Cependant, 4 ans après cet accord historique, nous constatons que les engagements pris par les États sont encore très vagues et loin d'atteindre les objectifs fixés, s'inquiète-t-il. Hassan Rouhani, le président iranien, a quitté Téhéran pour assister aux travaux de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Il vient chercher des soutiens face aux pressions américaines. Le point avec Irénée Herman-Humbo.
Son départ intervient alors que Téhéran a annoncé qu'un tanker battant pavillon britannique, arraisonné en juillet dans le détroit d'Ormuz, était désormais libre de ses mouvements. La pression est montée d'un cran après des attaques contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Washington et Riyad ont accusé Téhéran. Le premier ministre britannique Boris Johnson a lui aussi pointé du doigt l'Iran alors qu'il se rendait à New York où il doit rencontrer le président Hassan Rouhani. Avant de s'envoler pour New York, M. Rouhani a de son côté déclaré que l'Iran présentera un plan de coopération régionale destiné à assurer la sécurité des eaux du Golfe. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a souligné que le président Trump donne à la diplomatie toutes les chances de réussir. Le président français Emmanuel Macron dit garder l'espoir que quelque chose se passe sur le dossier iranien lors de l'Assemblée générale de l'ONU, même si les attaques contre l'Arabie saoudite ont changé la donne.
D'ailleurs, le président français Emmanuel Macron a annoncé la tenue aujourd'hui et demain de plusieurs rencontres séparées avec ses homologues Donald Trump et Hassan Rouhani. Il cherche à organiser un entretien entre ces deux dirigeants en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. J'ai eu une réunion informelle avec Trump ce matin. Je verrai Rouhani ce soir et de nouveau Trump demain mardi, a déclaré le président français. Pour sa part, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que son pays était ouvert. Le président Trump a confirmé dimanche qu'il avait parlé à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, cet été de cette affaire présumée en mentionnant explicitement Joe Biden et son fils Hunter. L'opposition soupçonne Donald Trump d'avoir profité de sa position de pouvoir pour pousser M. Zelensky afin qu'il enquête sur Joe Biden en utilisant notamment une aide militaire comme levier de pression. M. Biden a dénoncé dimanche un énorme abus de pouvoir.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, 9 civils ont été tués dans des attaques survenues dans 2 localités situées dans le nord du pays, région en proie à des attaques djihadistes. L'attaque a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Pisélé, une bourgade qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres au sud de Djibo, épicentre des attaques djihadistes au Burkina. Les autorités ont souligné qu'il s'agit d'un bilan provisoire car ces familles sont sans nouvelles de certains de leurs membres. L'Organisation mondiale de la santé accuse la Tanzanie de ne pas avoir fourni d'informations sur des cas suspects d'Ebola dans le pays. L'épidémie a fait plus de 2000 morts dans la région. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dans un communiqué, l'OMS déclare avoir appris le 10 septembre qu'un cas présumé d'Ebola a été signalé à Dar es Salaam. Selon des informations non confirmées, ce malade aurait été testé positif au virus Ebola et certains de ses proches auraient été placés en quarantaine, ajoute l'OMS. L'organisation a précisé que 2 autres cas suspects avaient été signalés officieusement. Malgré plusieurs demandes, l'OMS n'a reçu des autorités tanzaniennes aucun autre détail sur ces cas, regrette le communiqué. Le 14 septembre, les autorités tanzaniennes ont assuré qu'il n'y avait pas d'Ebola dans le pays, tout en refusant un test de confirmation secondaire dans un centre de l'OMS. Le peu d'informations disponibles auprès des autorités tanzaniennes représente un défi pour évaluer le risque posé, regrette l'OMS. Par ailleurs, la République démocratique du Congo va recourir à un deuxième vaccin anti-Ebola dès la mi-octobre, a annoncé l'OMS, accusé par Médecins sans frontières de rationner le vaccin des laboratoires Merck, le seul utilisé à ce jour contre l'épidémie qui a déjà fait plus de 2100 morts.
Nous reviendrons sur ce dossier Ebola en RDC dans la page magazine de ce journal. En Algérie, ouverture du procès symbolique de 2 ex-chefs du renseignement et du frère du président déchu à Blida, au sud-ouest de la capitale, Claire Morin-Gibour.
Saïd Bouteflika, frère du président déchu, Mohamed Médiane dit Toufik, longtemps directeur des services secrets. Son successeur, Atman Tartag et Louisa Hanoun, la chef du Parti des Travailleurs, se sont présentés devant la cour. Ils ont été accusés d'atteinte à l'autorité de l'armée, complot contre l'autorité de l'État et risquent de très lourdes peines selon le code de justice militaire et le code pénal. Un important dispositif policier a été mis en place autour du tribunal militaire de Blida. L'ouverture de ce procès n'en reste pas moins retentissante, même si très peu de choses ont filtré de l'audience. Par ailleurs, la contestation se poursuit avec de nombreuses arrestations. Les manifestants réclament toujours le départ de l'ensemble des composantes de ce qu'ils appellent le système. Un bras de fer est engagé sur la tenue d'une présidentielle le 12 décembre, comme souhaité par l'armée.
Le nouveau premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a formé un comité chargé d'enquêter sur la répression meurtrière d'un sit-in de manifestants qui avait fait des centaines de victimes en juin à Khartoum. Il s'agit d'un comité indépendant composé de 7 personnes, dont des représentants des ministères de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense et d'autres membres indépendants. Il devra présenter son rapport avant les 3 mois. Et puis le prince Harry et son épouse Meghan effectuent depuis ce lundi leur première visite officielle en Afrique australe. Leur voyage des 10 jours commence par la ville sud-africaine du Cap, une destination prisée des touristes pour ses immenses plages et ses vignobles, mais une ville également gangrénée par des violences dans les townships. Et puis les ministres de l'Intérieur de 4 pays européens se sont entendus lundi à Malte sur un préaccord de répartition automatique des migrants débarquant à Malte. ou en Italie, qui devra être validé par les autres États membres. Le texte qualifié de base d'accord sera soumis pour approbation à l'ensemble des pays de l'Union européenne lors d'un Conseil européen au Luxembourg le 8 octobre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, c'est dans la Minute Éco avec Nani Talani.
Le Soudan demandera une aide de 2 milliards de dollars à la Banque mondiale et le détachement de 3 experts soudanais qui travailleront au Soudan pendant la transition. Par ailleurs, le gouvernement lancera le mois prochain un plan de sauvetage économique sur 9 mois. D'après le ministre soudanais des Finances, Ibrahim El-Badawi, les mesures comprendront la rationalisation des dépenses et la lutte contre l'inflation. La Norvège va récompenser le Gabon pour l'inciter à ne pas déforester, à mieux gérer l'exploitation forestière et contribuer à réduire les émissions de carbone. Selon l'accord signé dimanche à New York entre les deux pays, la Norvège payera 10 dollars pour chaque tonne de carbone non émise, avec un montant maximal de 150 millions de dollars sur 10 ans. Au Gabon, 80% des émissions de gaz carbonique sont liées à l'exploitation forestière. Pour terminer cette Minute Éco, les producteurs africains de bananes veulent un nouveau mécanisme de régulation avec l'Union européenne face à la concurrence latino-américaine. Ce programme devrait remplacer l'appui de l'Europe qui s'achève cette année. Il sera en accord avec l'Union européenne et les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, pour leur permettre de se développer sans tomber dans une guerre des prix néfaste pour le consommateur et les producteurs.
Yacouba Ouidraogo nous a rejoint dans ce studio pour parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par le dernier tour des éliminatoires du CHAN 2020 avec les matchs allés qui se sont joués ce week-end.
Oui, dans la zone ouest B, le Burkina Faso a réussi le hold-up parfait en venant à bout du Ghana à Kumasi dans les arrêts de jeu 1-0. Belle performance également pour le Niger qui a dominé la Côte d'Ivoire 2-0. Le Togo a pris une option sur la qualification en dominant le Nigeria à Lomé 4-1. Dans la zone ouest A, le Mali a ramené le nul de son déplacement à Mauritanie 0-0. Le Sénégal a battu la Guinée 1-0 grâce à un but d'Hassan Mbodj. En fin de match, un résultat satisfaisant pour le coach sénégalais qui a le regard tourné vers le match retour. Serigne Saliou Dia.
Quand on voit l'attitude de l'équipe de Guinée aujourd'hui, avec un bloc très médian, un bloc très compact qui a refusé de jouer. Je pense que maintenant, à domicile, ce sera heure de faire le jeu, ce sera heure de sortir. Et ça nous donnera des espaces, ça nous permettra de mettre en exergue un peu nos flèches sur le plan offensif. Et je pense par rapport à ça, on peut se faire pour une suite meilleure.
Serigne Saliou Dia, coach du Sénégal en face, les Guinéens croient à la qualification à domicile, comme le dit leur coach Kanfouri Lapé Bangoura.
J'ai pas eu de match amicaux, pas de championnat dans le pays. Après, physiquement, on n'était pas tellement à point. Nous nous sommes créés des occasions, mais au match retour, nous pourrons mieux faire, nous pourrons nous qualifier, je pense, sans difficulté.
Kanfouri Lapé Bangoura, coach du Sili National local au centre, la République démocratique du Congo, s'est imposé à Bangui 2-0 devant la Centrafrique. La Guinée équatoriale a été accrochée à domicile par le Congo 2-2. L'écran de l'Ouganda ont fait un immense pas vers la phase finale suite à leur succès 3-0 au Burundi. Victoire également à l'extérieur du Rwanda 1-0 en Éthiopie et du Soudan en Tanzanie. Et puis au sud, Madagascar a fait l'essentiel devant la Namibie 1-0. Même score en faveur de la Zambie du côté de l'Eswatini. Le Zimbabwe s'impose 3-1 devant le Lesotho. Au nord, coup de victoire de la Tunisie 1-0 face à la Libye, 0-0 dans le derby maghrébin entre l'Algérie et le Maroc tenant du titre. Un match difficile pour les deux équipes à en croire le coach des Fennecs locaux, Ludovic Batelli.
C'était une bataille tactique avec un arbitre qui a laissé beaucoup jouer, ne sanctionnant pas, peut-être même des deux côtés, de nombreuses fautes. C'est un match solide, un match athlétique et en cela je suis content parce que les garçons ont vraiment bien répondu présent.
Ludovic Batelli, coach des Fennecs locaux. Les matchs retour auront lieu dans un mois.
Et puis, 7 candidats pour la présidence de la Fédération ghanéenne de football.
Le comité de normalisation de la Fédération ghanéenne de football poursuit son processus pour le renouvellement de l'instance. 7 personnalités ont manifesté leur volonté de succéder à Kwesi Nyantaki, démi de ses fonctions pour corruption. George Afriyi, ancien membre du comité exécutif sous Nyantaki, est annoncé grand favori aux côtés de Nana Yaya Aponsa, Wilfried Ozeye Kwaku Palmer, Kurt Edwin Simon Okraku, sans oublier Fred Papoué, ancien vice-président de la Fédération ghanéenne de football, et George Ankama Mensah, propriétaire du club de deuxième division au Hockey FC. Une seule femme est en lice, l'avocate Amanda Clinton. Les élections sont prévues pour le 25 octobre.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour et on commence par New York. Une soixantaine des dirigeants mondiaux sont réunis depuis ce lundi à l'ONU pour un sommet sur l'urgence climatique censé revigorer le chancelant à cœur de Paris, alors que jamais l'humanité n'a rejeté dans l'atmosphère autant de gaz à effet de serre. Trois jours après que des millions de jeunes ont manifesté sur cinq continents pour le climat et quatre jours avant une nouvelle grève mondiale de l'école, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, espère que des dizaines de leaders annonceront une révision de la hausse de leur plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour en parler, retrouvons en direct de New York Dilly Dico, notre correspondante sur place. Bonsoir Dilly.
Bonsoir John.
Qu'est-ce qui ressort des articulations de cette journée à l'ONU aujourd'hui?
John, cette première journée est marquée par deux événements. D'une part, le sommet de l'ONU sur le climat. Et donc, il y a une soixantaine de chefs d'État qui ont répondu présents sur 136 qui sont actuellement à New York. La grande surprise a été la présence du président américain Donald Trump, qui a assisté pendant quelques minutes à cette réunion organisée par Antonio Guterres. Et le président Trump, qui avait à la base décliné de participer à cette réunion, était donc bien là. Et ce qu'il faut retenir, et ce qui est très important, c'est que désormais 66 pays ont souscrit au principe d'une neutralité carbone d'ici 2050. Et au cours de ce sommet, et face aux dirigeants mondiaux, la jeune écologiste suédoise, dont on entend vraiment beaucoup parler ces derniers temps, Greta Thunberg, qui n'est âgée que de 16 ans, a blâmé les politiciens et face à leur inaction et elle leur a demandé de prendre des actions concrètes.
Alors, il y a aussi eu ce week-end, vous parliez de Greta Thunberg, une jeune, il y a eu ce week-end un sommet des jeunes sur le climat. Qu'est-ce qu'on peut en retenir, Dilly?
Alors, tout à fait. Donc, le sommet sur le climat, le sommet de la jeunesse a eu lieu samedi au siège de l'ONU. Et le sommet des jeunes a en fait, il entre dans le cadre du sommet qui s'est tenu aujourd'hui avec les dirigeants. Et l'idée de ce sommet est de donner une plateforme d'envergure mondiale aux jeunes qui œuvrent en faveur du climat à travers le monde et contre le réchauffement climatique.
Et pour terminer, Dilly, ça continue demain. Que prévoit la journée?
Alors très rapidement, le programme de demain inclut les adresses du président aux tribunes de l'ONU. Et donc dans la matinée, le président américain, égyptien, turc et nigérian vont parler. Mohamedou Bouhari sera donc partie des premiers présidents à prendre la parole. Il est prévu en cinquième position. Et donc le premier, celui qui ouvrira le bal, ce sera le président du Brésil, dont le discours est très attendu.
Merci Dilly Dico. Je rappelle que vous êtes notre correspondante à New York.
Abdourahmane Dia avec vous dans À votre avis ce soir à 18h05 temps universel. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a convoqué un sommet extraordinaire sur le climat ce lundi. Objectif, pousser les pays à produire moins de gaz à effet de serre. 7 des 10 pays les plus touchés par le changement climatique sont en Afrique. Comment les États africains combattent-ils le changement climatique? Comment les populations participent-elles à ce combat pour la sauvegarde de l'environnement? Laissez-nous vos numéros et commentaires ou appelez en direct au 001 202 205 26 33 ou 001 202 205 43 93.
Au Burkina, on pourrait parler de catastrophes écologiques en devenir. En effet, à Ouagadougou, le principal barrage d'eau est envahi par une plante nuisible, la jacinthe d'eau. Le gouvernement multiplie les efforts pour la combattre. Mais selon les experts, il faudra bien plus pour sauver la principale retenue d'eau de Ouagadougou. De la capitale burkinabé, notre correspondant Lamine Traoré.
À Ouagadougou, quartier Tanguin, nous sommes au barrage numéro 2. Une partie de l'eau est couverte par cette plante, la jacinthe d'eau.
Notre travail consiste à enlever, nettoyer, même les ordures qui sont au niveau du barrage, nettoyer tout ça.
Issa Bagré est membre de l'équipe d'arrachage.
Vous voyez l'effectif qui est là pour le moment. On était au nombre de 20. Ils ont réduit le nombre de personnel. Nous sommes au nombre de 20 personnes. Actuellement, c'est 10 personnes qui sont là.
La jacinthe est classée parmi les 10 pires plantes envahissantes dans le monde selon des spécialistes. Elle a beaucoup d'impact négatif sur les ressources en eau. Ghislain Kabouré, directeur général de l'agence de l'eau du Nakambe.
Les impacts écologiques d'abord. C'est une plante qui est invasive, qui vient et qui prend la place des espèces qui étaient là dans l'écosystème. Donc elle détruit la biodiversité. Elle favorise le développement d'espèces nuisibles, animaux nuisibles. Sur le plan économique, la jacinthe d'eau nuit à l'usage naturel de l'eau, aux valorisations que nous voulons en faire. Et la présence de la jacinthe dégrade la qualité de l'eau. Le poisson ne se sent pas bien quand il y a trop de jacinthe parce que le taux d'oxygène diminue.
La guerre contre la jacinthe d'eau est déclarée. Après plusieurs initiatives, l'une des techniques aujourd'hui consiste à arracher la plante.
Et le Burkina est peut-être l'un des derniers pays à être touché par cette plante-là.
Le directeur général de l'agence de l'eau du Nakambe.
C'est un phénomène mondial. Au Brésil, il y a des cours d'eau qui sont perdus, au Vietnam, en Indonésie, au Cameroun, au Kenya, le fameux lac Victoria que vous connaissez, totalement envahi. Au Bénin, c'est la même chose. Certains ont abandonné, d'autres ont essayé de la lutte.
Pour certains spécialistes, le gouvernement doit s'impliquer davantage dans cette lutte.
Les plantes comme la jacinthe d'eau n'ont pas de frontières. Si on lutte par exemple contre la jacinthe d'eau au niveau de Ouagadougou en laissant la zone de Bobo et autres là, ça peut également repartir.
Docteur Louis Edraogo, phytoécologue, chercheur à la retraite.
La lutte contre les plantes envahissantes au niveau du Burkina, nous avons recensé 42 espèces. Pour pouvoir arriver à juguler le problème, il faut le voir de manière globale et non pas de manière sectorielle comme on est en train de le faire. Les moyens mis en œuvre vraiment sont assez faibles et limités vraiment dans le temps.
Certains spécialistes disent que la jacinthe d'eau est la première plante envahissante dans le monde à cause de sa prolifération exponentielle. Si toutefois cette plante venait à se répandre au Burkina, ça serait une catastrophe selon les experts, car les besoins d'eau sont vitaux pour l'ensemble de la biodiversité, les hommes, les animaux et bien d'autres. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En République démocratique du Congo, un deuxième vaccin expérimental anti-Ebola sera administré à partir de mi-octobre prochain. L'OMS encourage la décision des autorités congolaises. Cela, bien que l'ancien ministre de la Santé du pays ait accusé de détournement des fonds destinés à combattre Ebola et assigné à résidence surveillée la semaine dernière, s'y soit opposé et mis en garde quant aux conséquences. Eddy Sango a joint à Beni un des médecins de l'équipe de la riposte contre Ebola. Il s'agit du docteur Philippe Kouamou.
Ce second vaccin sera utilisé dans les zones non actives Ebola. Les zones non actives, c'est les zones où elles ne sont pas en train d'être rapportées. Par contre, le premier vaccin sera toujours utilisé dans les zones actives où les cas d'Ebola sont en train d'être rapportés.
Mais qu'est-ce qui explique les recours à ces deuxièmes vaccins alors qu'on avait déjà un qui a semblé donner des fruits?
Par rapport à la politique du gouvernement, c'est que le gouvernement jugeait bon introduire un second vaccin. Et surtout que c'est un vaccin, selon le groupe d'experts qui ont démontré que c'est un vaccin qui pourrait aider à freiner la flambée de l'épidémie. Mais aussi, je pense, les raisons, c'est par rapport aux raisons utilisées comme quoi il peut y avoir une pénurie par rapport je pense que par rapport à toutes ces inquiétudes que le gouvernement congolais a accepté d'introduire ce vaccin.
Quelles inquiétudes?
Les inquiétudes par rapport à la livraison ou à la disponibilité de doses par rapport au premier vaccin qui est utilisé beaucoup plus dans les zones actives.
Le ministre qui a démissionné, Oli Ilunga, avait émis des réserves quant à ces vaccins. Il me semble que ce soit un vaccin qui n'est pas homologué. Est-ce que les autorités congolaises ont tenu compte de ça?
je donne ma langue au chat. Pour moi, je n'ai vraiment pas envie de commenter la position que le ministre, l'ancien ministre, a donnée par rapport à ces deux vaccins. Mais si le gouvernement congolais a accepté que les deux vaccins soient utilisés, je pense que le gouvernement congolais est conscient de tout ce qui a été fait comme étude par rapport à ces deux vaccins. Et l'équipe qui a été installée, dirigée par le professeur Mouyembe, je crois que c'est aussi une équipe qui a confiance en elle-même. Elle ne peut pas accepter qu'on utilise un vaccin qui n'a pas prouvé ses efficacités sur la population congolaise, déjà puisque l'État congolais est celui qui protège d'accord la population congolaise. Donc je pense que c'est peut-être pour endiguer cette épidémie, pour que jamais elle n'entraîne beaucoup de morts comme nous en avons déjà enregistré.
Déjà, il y a beaucoup de réticences par rapport au vaccin en RDC, par rapport à la polio et autres. On dit beaucoup de choses.
En fait, tout partira de la façon dont la sensibilisation passera au sein de la communauté. Et la communauté donne beaucoup plus d'importance aux rumeurs qu'aux choses dites par les experts. Si on précède cette campagne par une sensibilisation sérieuse, je pense que ça ne va pas poser.
Docteur Philippe Kiumou, médecin de l'équipe de la riposte contre Ebola à Beni, dans le Nord Kivu.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Niger, les autorités ont lancé la semaine dernière les travaux de construction d'un oléoduc pour exporter le pétrole brut vers les côtes béninoises. C'est une société chinoise qui réalise les travaux pour un montant d'environ 5 milliards de dollars sur 2 ans. Les précisions de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Le président Issoufou Mahamadou a qualifié l'instant d'historique.
Parce que nous venons de lancer le projet le plus grand de l'histoire du Niger depuis l'indépendance.
La mise en exploitation de ce pipeline est prévue pour le début de l'année 2022. Pour y arriver, la société chinoise CNPC qui réalise les travaux va investir près de 3 000 milliards de francs CFA.
Cet investissement va soutenir la croissance du Niger. À partir de 2021-2022, le Niger va connaître un taux de croissance de 12%. Ça veut dire que ce projet va apporter près de 6 points de croissance. Jusqu'ici, le pétrole contribue pour 4% du PIB, mais à partir de 2022, le pétrole va représenter 24% de la richesse créée dans le pays. Nous sommes désormais dans le cercle des pays véritablement producteurs de pétrole. Donc, monsieur l'ambassadeur, je vous remercie. Monsieur le directeur aussi, je vous remercie infiniment.
L'oléoduc va relier les champs d'Agadem dans le sud-est du pays à la côte maritime béninoise. Il est prévu une production de 100 000 barils par jour, ce qui fait saliver certains citoyens, mais inquiète la plupart.
On peut avoir du pétrole, l'exporter, gagner des ressources, mais avoir aussi une situation économique difficile et une situation sociale très lamentable. L'argent du pétrole peut aussi être accaparé par une minorité, auquel cas ça va entraîner plutôt des crises intenses, aussi bien politiques et autres. On l'a vu dans d'autres contextes où effectivement les frustrations liées au fait que les revenus sont accaparés par une poignée d'individus qui en profitent peuvent aussi entraîner d'autres problèmes. Donc c'est ça qu'il faut prévenir. Et pour prévenir, il n'y a pas 1000 solutions. En fait, les solutions sont déjà dans nos textes fondamentaux, notamment la constitution du Niger qui indique clairement que ces ressources doivent être bien gérées dans l'intérêt bien compris des populations.
C'est en 2011 que le Niger a débuté l'exploitation de son pétrole grâce au gisement d'Agadem dans le sud-est du pays. Récemment, un nouveau bassin pétrolier a été découvert à la frontière algérienne au nord du pays. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition mise en onde par Joselle Morissin. John Lyndon vous a présenté ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Tout de suite, les infos avec Henri Francis.
l'actualité, le monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le monde aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.